Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, facile à poser, qui protège de la canicule. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, les Grandes Gueules.
Et quand Madame Borne, Première Ministre, parle et nous donne le dispositif, on l'écoute avec attention.
On va continuer à protéger le pouvoir d'achat des Français, mais en ciblant davantage sur ceux qui en ont le plus besoin. Et effectivement, à partir du début de l'an prochain, on va mettre en place une indemnité carburant pour les Français modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail. Donc c'est 100 euros pour à peu près la moitié des ménages. Ça représente une remise de l'ordre de 10 centimes par litre si vous faites par exemple 12 000 km par an, qui est la moyenne de ce que font les Français.
C'est 100 euros une fois ou 100 euros tous les mois?
C'est 100 euros pour l'an prochain. Et donc si vous faites, je vous dis, 12 000 km par an, ça représente une remise d'un peu plus de 10 centimes par litre.
Voilà, et il suffira d'aller sur le site des impôts pour obtenir cette attestation.
On est tellement habitué à ces chèques que la journaliste dit c'est 100 euros par mois. Non, mais c'est-à-dire qu'on a perdu complètement le sens des réalités. Parce que là, simplement, cette aide va coûter déjà 1 milliard d'euros. 100 euros, une seule fois, un chèque de 100 euros, c'est 1 milliard d'euros aux finances publiques. Donc quand le gouvernement nous dit que le quoi qu'il en coûte est terminé, non, la politique des chèques continue. Alors là, ça concerne donc les gens qui sont des rouleurs, hein, qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, mais c'est une déclaration sur l'honneur, donc on n'ira pas vérifier. Donc il y aura sans doute un peu de triche, j'imagine. Les gens vont essayer d'en profiter. Ça concerne pas tout le monde parce que c'est effectivement en fonction de ton numéro fiscal que tu dois envoyer. Donc là aussi on va calculer précisément. C'est en fonction des 5 premiers déciles de revenus, voilà, qui seront concernés. C'est la moitié des ménages. Ouais, c'est ce que dit Madame Borne. Donc elle dit voilà 10 millions de Français.
Donc il y a un impact, il y a un côté revenu et un côté nombre de kilométrages.
Voilà, c'est ça. Sauf que le nombre de kilométrages n'est pas vérifié.
C'est pas vérifiable.
Tu vas avoir une voiture jamais utilisée, il faut que tu fasses une déclaration sur l'honneur que tu utilises ta voiture pour aller travailler. Là on cible, alors qu'avant la ristourne n'était pas ciblée, elle touchait tout le monde. On cible vraiment ceux qui ont besoin de la voiture pour aller travailler. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au même moment on apprend que le prix du ticket de métro et du pass Navigo va augmenter. Donc en fait, ça coûte plus cher de prendre le métro. Et ça coûtera un peu moins cher de prendre sa voiture. Il y a des messages contradictoires qui sont envoyés par le gouvernement. Mais on a l'impression quand même qu'il n'a pas le choix. C'est que pour calmer la colère sociale, etc., il faut faire des chèques.
Alors, qu'en pensez-vous de cette aide de 100 euros, déclaration sur l'honneur sur le site des impôts, pour ceux qui sont à la fois les plus modestes et les plus rouleurs? Monsieur Thomas Porcher, ça te paraît un bon dispositif ou pas?
Protéger les 50% des Français les plus pauvres, qui sont ceux qui prennent leur voiture et qui font souvent plus de 12 000 km en moyenne, qui vont faire 20 à 30 000 kilomètres par an pour aller travailler, pas pour le loisir, pour aller travailler parce qu'ils vivent dans des zones loin des centres-villes et loin de leur lieu de travail. Je rappelle qu'en dehors de Paris, on est entre 85 et 90% de taux d'utilisation de la voiture pour aller travailler. Donc on est très dépendant de la voiture, il n'y a pas de transport. Donc là, on est obligé de les protéger. Le problème, c'est qu'après, comment tu fais pour avoir des rentrées fiscales pour compenser ça? Parce que là, finalement, cibler les 50% les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui gagnent moins de 2000 euros, et ceux qui font plus de 12 000 km, je trouve ça bien de cibler cela, pour plus donner la ristourne à ceux qui vivent à Paris et qui peuvent, eux, prendre les transports. Mais après, il faut compenser ça par des rentrées fiscales. Donc moi, j'irai plus loin. Moi, je pense que plutôt que de faire de la politique de chèque comme ça, qui n'en finit pas, parce que l'inflation va durer plus longtemps que prévu, là.
C'est de l'argent.
Là, il faudrait revoir toute la fiscalité des carburants. C'est-à-dire que là, tu cibles les 50% les plus pauvres, tu leur permets d'avoir un carburant moins cher, mais il y a une partie des Français, il faudrait qu'ils aient un carburant beaucoup plus cher.
Ah oui, toi tu ferais ça.
Bien sûr. Et en premier lieu, par exemple, avec des vignettes comme on a fait à l'époque, tu ressors la vignette là. Mais clairement, tu mets par exemple pour ceux qui vivent à Paris, 14% d'utilisation de la voiture pour aller travailler, ce sont ceux qui ont des moyens. Je veux dire, quelqu'un qui vit à Paris qui prend la voiture pour aller travailler.
Il n'y en a plus beaucoup.
14%. C'est rien, mais on peut peut-être les gratter un peu ceux-là. Voilà, parce que ceux-là, en fait, ils utilisent leur voiture, ils vivent sur Paris, ils ont les moyens. Tu leur fais payer eux, tu peux leur rembourser les 100 euros par mois.
Plus des taxes, toi.
Ouais, des taxes.
Ce milliard d'euros, on ne pourrait pas l'utiliser pour faire plus de 30 par an. On va dépenser un milliard d'euros.
Là, tu les soulages maintenant. Tu les soulages maintenant, en janvier. Tu crées des transports, tu les soulages dans 5 ans.
C'est anticipé, c'est pas seulement un échec pour 6 mois.
Comme tu es dans un gouvernement de myopes qui n'anticipe rien, qui fait tout.
Un milliard d'euros,
ça,
tu peux faire des travaux avec un milliard d'euros, non? Des métros.
Attends, les mecs, tu leur fais des coupures d'électricité. Le pouvoir d'achat est bouffé par l'inflation. T'as une inflation à 15% sur l'aliment. Et en plus, tu les protèges pas sur l'essence. Les mecs, ils vont remettre un gilet jaune, ils vont être fâchés.
T'as dépensé déjà 7 milliards avec la ristourne.
Je comprends, mais je
comprends. Là, tu dépenses 1 milliard, ça fait 8 milliards. 8 milliards.
Attends.
Pardon, 8 milliards, tu peux lancer une politique ambitieuse de transport en commun.
Mais
8 milliards,
c'est pas dans 5 ans, voire 10 ans.
Ben oui, mais c'est ça la politique.
Attends, Olivier, moi,
faire des chèques pour calmer les gens pour parce qu'on a peur qu'ils descendent dans la rue.
Olivier, si j'étais aux manettes en 2012-2011, t'as le président de Total qui a dit l'essence sera à 2 euros, monsieur de Margerie.
Donc là,
moi j'aurais été au pouvoir, je me serais dit, bah voilà, là, il y a de quoi anticiper. Mais on n'a pas voulu anticiper.
Pourtant,
donc
c'était les écolos et la gauche qui étaient au pouvoir en 2012.
Ouais, mais pourquoi tu me dis ça? Moi, je ne les connais pas, ces gens.
Non, mais c'est des gens qui nous expliquent qu'il faut décarboner, qu'il faut prendre les transports.
Marianne.
Très sincèrement, alors c'est une usine à gaz de plus et puis 100 euros, très sincèrement, je ne suis pas sûre que ce soit suffisant pour ceux qui en ont vraiment besoin. Donc moi, 100 euros, ça ne me paraît vraiment pas beaucoup.
Pause, s'il vous plaît, parce qu'il y a priorité au direct. Apolline de Malherbe a oublié
la grande Apolline
ses effets personnels en quittant la matinale après son interview avec Madame Pannier-Runacher.
J'ai mes chaussures et mon sac,
Tes chaussures, carrément.
Mais qu'est-ce que c'est?
Non, mais
laisser aller.
Non, ce qu'on apprend, c'est que. Ce qu'on apprend, c'est qu'Apolline, dont on est fini le matin,
c'est des tennis en plus.
Les chaussures plates, je passe au talon en arrivant là-bas. Salut les GG.
Merci
Apolline. Bon repos et à demain matin à 6h30 sur RMC et ensuite BFM TV pour l'interview de 8h30. Pardon, Marianne.
Juste pour les auditeurs, pour ceux qui n'ont pas vu, Apolline de Malherbe est arrivée pieds nus et donc elle avait oublié ses chaussures dans le studio. Oui, alors moi j'ai quand même le sentiment que c'est une usine à gaz de plus, qu'en plus ces 100 euros de toute façon pour ceux qui en ont vraiment besoin ne seront pas suffisants. Et puis encore une fois, on a oublié beaucoup de gens. C'est-à-dire que là, le problème, c'est que
2000 euros, c'est pas non plus gagner 2500 euros.
Ouais, mais attends, moi qui travaille avec des transporteurs, par exemple, qu'est-ce qui se passe aussi pour les transporteurs, les gens qui dont le métier en fait c'est faire rouler des camions en fait.
Les professionnels de la route.
Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là en réalité?
Ils ont déjà des ristournes. Hein,
ils ont des ristournes de telle façon qu'en réalité, il y en a beaucoup aussi qui vont avoir des problèmes parce qu'il y a ceux qui sont mis à rouler, par exemple, au gaz parce qu'on leur avait dit que c'était mieux. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'augmentation du gaz, en fait, et donc il y a quand même aujourd'hui des vraies difficultés qui ne sont pas uniquement les personnes qui prennent leur voiture pour travailler. Et juste un dernier point, parce que c'est vrai que Thomas, tu parlais des gens qui habitent à Paris. Alors moi, je ne suis pas à Paris même, mais je suis en banlieue et j'ai une nécessité d'avoir ma voiture parce qu'en réalité, je travaille de banlieue à banlieue.
Bien sûr.
Et c'est un truc qui n'existe pas.
Il voudrait te faire taxer davantage là.
Oui, voilà, il voudrait me taxer davantage alors que moi, je fais banlieue et que j'ai pas de.
En petite couronne, taux d'utilisation, il remonte déjà à 50%. Quand vous êtes en grande couronne, on remonte à 65%. En grande couronne, le taux d'utilisation de la voiture, il est très proche de celui de la province. Donc non, moi, je suis pour quelque chose de toujours progressif. À partir du moment où c'est progressif, c'est équitable.
Mehdi Ghezard.
Je fais des rentrées, quoi.
Bah écoute, en cette belle journée de mercredi, un foutage de bebelus dans la gueule du monde. Très sincèrement, 10 centimes, ils enlèvent 10 centimes, ils donnent 1 milliard, ça va leur coûter 1 milliard, à ce qui paraît. Mais en contrepartie, enlever... Cette ristourne de 10 centimes va rapporter 3,9 milliards d'euros pendant l'année 2023 à l'État. Excusez-moi.
L'État gagnant.
Excusez-moi. Je ne sais pas si on est vraiment des excusez-moi l'expression, hein, mais des teubés finis, ou si le gouvernement prend les gens pour des teubés finis.
Pas au calcul, là. Les 3,9, c'est parce qu'avec la hausse des prix des carburants.
Non, parce que quand tu enlèves les 10 centimes que eux y donnaient, automatiquement, il y a 3,9 milliards d'euros qui va rentrer dans les caisses. Donc, elle ne donne pas 1 milliard, elle va en gagner 2,9. C'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est tout.
Elle me dit. La TVA, elle rentre plus facilement lorsque le prix du carburant
augmente. Ben voilà. Donc tu me dis, non, alors c'est très beau. Oui, on va aider, je crois que c'est combien de millions de Français? 10 millions de Français. On va aider, on va leur donner 100 euros. Donc ça va coûter 1 milliard à l'État. Mais quand la ristourne va être enlevée de 10 centimes, ça va rapporter dans le même temps 3,9 milliards de plus dans les caisses de l'État. Donc l'État, alors est-ce qu'on est des moutons, est-ce qu'on est une bergerie, est-ce qu'on est une ferme ou est-ce qu'on est Alice au Pays des Merveilles? Je sais pas, mais posez-vous les bonnes questions.
Et je rajouterais que quand tu avec tes 100 euros, tu vas faire le plein.
Désolé.
Et l'État récupère l'argent aussi.
Mais oui,
forcément.
Donc, en fait, il donne l'impression de te faire un cadeau.
Mais forcément.
En fait, il récupère ton cadeau.
Mais bien sûr.
Donc c'est du foutage de gueule. Mais il y en a. Moi je sais qu'il va avoir des députés, il va avoir des gens qui vont te dire mais c'est très bien, le gouvernement est près de ses concitoyens et nous aide.
Oui, ce qui serait mieux, c'est que
la TVA baisse, que les charges de l'État baissent sur le carburant.
Attendez, l'essence, on n'a pas le choix. Baisser hein. La TVA.
Non, mais, non, d'accord. Non, non, il y a la fiscalité qu'on joue sur le
la fiscalité.
Mais Thomas, tu es bien d'accord qu'en période de crise, c'est le seul levier sur lequel tu peux jouer.
Bien sûr,
c'est la seule chose où tu peux stopper l'hémorragie. Non. Eux, ils te disent, on stoppe pas l'hémorragie, on va te filer un peu de pognon, mais en attendant, on va en reprendre trois fois plus.
Ouais.
Excuse-moi. Ben, je sais pas comment vous appelez ça, mais il faut pas être fuite-fuite pour pas comprendre.
Et puis surtout, ce qui est amusant, c'est qu'ils t'arrêtent pas de dire, semaine après semaine.
On vous aide.
On ne fait plus de chèques, on va faire autrement, on va essayer de trouver des solutions pérennes. Et en fait, c'est pas les solutions pérennes.
Non, mais là, t'imagines, les gens vivent avec des primes. Les gens arrivent à vivre avec des primes. Les gens vont travailler avec des primes. Les gens vont bouffer avec des primes. Oui. Les gens vont dormir avec des primes. Et les gens vont se chauffer avec des primes. Les gens vont se laver avec des primes. Les gens vont travailler avec des primes.
Pourquoi
c'est un système de dingue.
Bah, d'après toi, parce que leur salaire normal, leur salaire sur la fiche de paie ne leur permet pas de vivre.
Mais baisse les impôts, le salaire va
alors baisse les charges, baisse les impôts.
Alors Thomas, attention.
Ah, tu veux faire le GG7 et match avant. Attention.
Non, non, mais attention.
Je te vois arriver.
Sur les cotisations, je veux dire, il ne faut jamais oublier, parce qu'on a déjà oublié. En 2007, Macron, il a retiré deux lignes de cotisation sur les salaires. Ce qui a réduit l'écart entre le brut et le net, il y avait les cotisations chômage. Et d'ailleurs, maintenant, il se rattrape parce qu'il doit les rattraper avec la baisse de l'assurance chômage. Ouais. Mais vous nous avez dit que ça allait être génial. Et ben finalement, les gens, ils se plaignent encore du pouvoir d'achat. Donc, cette solution, en fait, de baisser deux lignes de cotisation sociale, ça a été fait en 2017. Je vois pas que les gens soient très heureux puisqu'ils se plaignent encore aujourd'hui.
Thomas, ton système, ce que tu préconises,
mais quel système
aboutit à cette politique d'échec. Comme les gens n'ont pas assez pour vivre,
ben voilà.
On leur fait des
chèques
matin, midi et soir pour essayer
mais
de survivre.
Mais qu'on récupère d'une autre façon. Pourquoi les gens n'ont pas assez
d'argent pour vivre? Parce qu'il y a une inflation à 6% en moyenne, donc plus de 15% sur l'alimentaire, à plus de 12% sur l'alimentaire, et que les salaires ne suivent pas l'inflation. Donc le salaire réel, le salaire tenant compte de l'inflation, il a chuté drastiquement comme il n'a jamais chuté depuis.
Non,
depuis l'après-guerre.
Il est en train de nous emmener sur la terrasse.
Depuis l'après-guerre en France. Donc à un moment, il faut se poser la question. Soit les salaires suivent les prix, soit les
salaires. Qui a mis en place cette politique de salaire modéré? Qui a dit
à partir des années 80, les salaires dans la
qui a mis en place ces 35 heures et qui a dit on va donner 35 heures, mais il y aura une modération salariale. C'était le deal passé avec les entreprises, tu le sais très bien, Thomas. Le deal passé entre Jospin, Aubry et le MEDEF à l'époque, ça s'appelait pas le MEDEF, c'était de dire on va faire les 35 heures, mais rassurez-vous, ça sera modération salariale. Eh bien, est-ce qu'on n'a pas payé ça pendant 20 ans?
Non, la vraie. Attends.
Non, mais Thomas, est-ce que j'ai pas raison?
Non, Thomas. Le deal, c'était les gens travaillent moins à salaire égal, mais il y aura de la modération salariale.
C'était le deal qui a été signé pendant les 35 heures.
Mais là, on parlait des carburants, les garçons.
Vous ramenez toujours à ce qu'a fait la gauche. Je ne fais pas partie du gouvernement, moi. Je ne te ramène pas à ce qu'a fait Macron, la droite.
Non,
vous parlez
de la prime de carburant.
Il faut arrêter tout de suite. Mais la vraie chute, les salaires dans le PIB, la chute du salaire des PIB ou la chute des salaires dans la valeur ajoutée, là on a vu la plus grosse chute, c'est à partir des années 80 où on a désindexé les salaires sur l'inflation. Et après, effectivement, c'est resté stable. Et comme le patronat ne voulait pas réaugmenter les salaires, quand on est passé aux 35 heures, on l'a dit, on va faire travailler moins les gens et on va garder cette même modération salariale. Mais depuis les années 80, la vraie chute,
pour te dire,
la vraie chute des salaires dans le PIB,
c'est
à partir des années 80.
Alors, il est 9h20, on a lancé la discussion, le débat autour de la nouvelle aide qui est
prévue.
Je me suis jamais présenté à une élection. Tu me parles tout le temps de la gauche, j'ai jamais fait partie d'un gouvernement.
Non, parce que c'est une politique que tu préconises.
Non,
redistribution.
Alors, c'est parti. Vous avez entendu la nouvelle ristourne carburant, 100 euros par Français modeste qui travaille, qui ne peuvent que prendre leur voiture pour aller bosser. Et les 100 euros, en fait, ils seront versés directement sur votre compte en banque. Donc,
vous les verrez
arriver. Alors, est-ce que c'est un bon dispositif ou pas? Qu'en dites-vous? 32-16 pour en parler avec les GG, parce que l'État est devenu un tiroir-caisse. On vous attend au 32-16. Allez, on y va, on continue notre discussion sur la prime carburant, la nouvelle qui va arriver. Benoît, bonjour.
Oui, bonjour, comment ça va?
Ça va, mon cher Benoît, vous êtes chauffeur routier, chauffeur poids lourd, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Vous êtes de quel côté, dans la Manche, là, en ce moment?
Là, je suis entre Vesoul et Belfort.
D'accord. Ah bah vous avez bien roulé depuis la Manche, effectivement. Oui. Bon, ça va le boulot en ce moment? Pas trop fatigué, le rythme?
Non, ça va.
Bon, il y a de la demande. Il y a de la demande dans votre secteur en plus. On cherche du monde.
Oui, ça permet de changer de boîte quand le patron paye pas.
Vous avez raison. Vous faites jouer la concurrence. Bon, que pensez-vous de cette prime là? Est-ce que le gouvernement joue encore les tiroirs-caisses?
Non, on a ras-le-bol. Des chèques, toujours des chèques. On sait toujours qui c'est qui va payer les chèques, qui c'est qui va les toucher. Donc au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Je pense que le plus simple, ce serait de baisser les taxes.
Bah oui.
Donc, il va falloir baisser les dépenses de l'État. Mais je pense qu'il y a beaucoup de points où on peut facilement baisser les dépenses.
Comme quoi, par exemple?
Ah bah France Télé, Radio France, déjà. Ça, ça dégage.
Ouais, mais ça coûte pas tant que ça. Enfin, je veux dire, je suis pas sûr.
Après, au pire, on garde France 3 et France Bleu pour le côté régional. Et encore. Donc voilà. Après, je pense que sur le social, on peut faire des grosses économies.
Comme quoi, par exemple?
Ah bah moi, je mettrais en place. Plafonnement des aides sociales à 2 enfants 1 an après la mise en place de la réforme.
D'accord.
Comme ça, après, les gens, ils font le choix de faire plus d'enfants. Donc, on fait choix, on assume.
Ouais, sauf qu'en réalité, on a besoin des enfants pour payer les retraites. Donc, c'est pas une bonne idée. Les politiques
pour
de famille, elles servent à ça. Elles servent. Et au final, si vous faites pas assez d'enfants. Non, mais si vous faites pas assez d'enfants, vous avez personne pour payer les retraites. Donc les allocations familiales, elles servent à ça, et ça compense en fait toutes les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui n'en auront pas, etc. Il vaut mieux, je veux dire, il y a des gens, ils vont en faire 4 et d'autres ils en auront
par
pas.
Par exemple, Benoît, est-ce que vous êtes parce que en Allemagne, c'est exactement ce qui se passe. Ils font moins d'enfants, voilà. Donc ils ont beaucoup plus de vieux que de jeunes.
Donc ils font venir
de l'immigration. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution, vous, Benoît, par exemple, si on fait moins d'enfants, on fait venir l'immigration?
Parce que nous, on fait beaucoup d'enfants, il n'y a personne qui veut bosser, on fait venir de l'immigration pour travailler et on demande à les régulariser parce qu'ils viennent travailler chez nous, parce que les Français ne veulent pas bosser, en fait.
Dans certains secteurs, ouais.
Mais voilà. On ne fait pas beaucoup d'enfants. En tout cas,
Benoît, lui, l'aide, il n'en veut pas, il veut que l'État fasse l'État se réforme, que l'État fasse des efforts, que l'État réduise ses dépenses.
La promesse d'Emmanuel Macron en 2017, qu'il a totalement oublié, c'était de faire des économies.
Oui.
On n'a jamais autant dépensé depuis
parce qu'il y a eu le Covid. Quand même, s'il n'y avait pas eu le Covid, on était
Covid, c'était un peu obligé. C'est le gouvernement qui a arrêté lui-même les secteurs d'activité.
Aux gens, vous ne travaillez pas, il faut bien les payer.
Mais dans d'autres pays, ils ont arrêté sans payer. Nous, on a choisi
Nous, on a payé plus que n'importe où.
Oui, tout à fait.
Et on a arrêté beaucoup plus que certains.
Voilà. Mais on a choisi.
Je remercie Benoît.
Même arrêté nucléaire, c'est ça le problème.
Je remercie Benoît d'avoir été avec nous. Sauf que là, on a une visibilité de stratégie politique sur quoi? Sur 1 mois, 2 mois. Ouais. Enfin, tu vois, on fait chèque, et puis à un moment, ce chèque, il va s'arrêter aussi.
Toi qui es épicier, tu devrais aimer cette politique d'épicier.
Non.
Ah, ben non, parce que si tu veux, l'épicier, lui, il est constant, il est au centime près, il fait jamais de cadeaux, jamais de chèque, il regarde toujours.
Il n'y a même pas d'ardoise.
Ma bonne dame, c'est difficile, et puis n'oubliez pas, la maison ne fait pas crédit. Tu sais, c'est écrit derrière, effectivement. Donc là, on ne voit pas après la prochaine aide, quelle est la stratégie. Mais est-ce qu'il faudra. Parce que.
On achète la paix sociale, là.
Parce que l'inflation va être là l'année prochaine. On est d'accord.
Il y a des chances, oui. Tant que le conflit avec l'Ukraine et la Russie n'est pas réglé complètement et qu'il y a encore des confinements en Asie, il y aura de l'inflation.
Le carburant peut baisser parce que si la croissance, je parle à un économiste, mais si la croissance est moins forte, donc la demande en carburant sera moins forte en pétrole, donc on peut imaginer que le prix du pétrole quand même baisse.
Tout à fait.
On retrouve, alors peut-être pas les niveaux très bas, mais d'ailleurs le baril quand même va baisser.
Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, tant qu'il y a quand même un problème avec la Russie qui produit 10 millions de barils par jour, c'est-à-dire l'équivalent de l'Arabie Saoudite, il y aura de la spéculation. Parce que c'est l'offre et la demande est tellement proche sur ce marché-là que tant que t'as un opérateur important qui est touché, t'as des mecs qui spéculent. Mmh. Et donc les prix, même s'il y a une plus faible croissance, les prix sont toujours orientés plutôt à la hausse.
Nous sommes avec Fabrice qui nous appelle de Gironde. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous, bonjour les grands gueules.
Conducteur de bus. Alors mon cher Fabrice, que pensez-vous de cette aide?
Les aides, comme disait l'interlocuteur avant, c'est bon, ça suffit, stop. Stop les aides, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Quand est-ce qu'on va régler les vrais problèmes de ce pays, quoi? C'est-à-dire, faut creuser, faut arrêter, balancer des chèques. Certes, il y a des gens qui en ont besoin, mais je rappelle une chose, un centime à la pompe d'augmentation, c'est 500 millions par an dans les caisses de l'État. Donc c'est qu'un juste.
Merci quelqu'un enfin de taxe, réveiller de ce matin et qui dit des choses vraies. Merci monsieur.
Un centime de taxe en plus.
Allez-y Fabrice.
Mais c'est qu'un juste retour des choses.
Non mais attention, elle va nous donner 100 euros pendant un an et pour 12 000 km. Non, 100 euros une fois pendant un an pour 12. Mais c'est une prime. N'oubliez pas, il faut marteler ça dans le cerveau des gens. C'est une prime. Voilà, vous imaginez, c'est tellement pervers comme système, parce que en fait, c'est comme si on était en train d'attendre constamment des aides et des cadeaux et des chèques et des c'est incroyable. On dirait qu'on a une carte de fidélité avec l'État et à chaque fois on doit mettre des miles et à chaque fois on a des primes.
C'est comme ça.
Allez-y, Fabrice.
Parce que c'est malsain, exactement.
Allez-y, Fabrice.
Je pense pas que ce soit la bonne solution. Je veux dire, Total, c'est une entreprise française, ça fait des milliards de bénéfices. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à travailler. Gouverner, c'est prévoir. Penser une fonte de bois avec des racines comme l'on fait là, avec des petits sparadrapes, ça ne sert à rien, ça ne avance rien. Si ça servira à diviser les gens qui travaillent, ceux qui en ont plus besoin, le pays va mal, le pays va mal.
Attendez 2023. Hein. Vu ce qu'on va se prendre dans la gueule, Fabrice, en 2023, ça va aller encore plus mal. Les gens ne s'en rendent pas compte. Alors, moi, j'ai des fournisseurs, à moi. Là, ils me le disent directement dans la gueule. C'est leur dernier bilan.
Ouais.
Là, ils font 31 décembre, ils font leur bilan. Non, mais c'est honnête. Ouais. Et j'en ai pas que deux ou que trois. Hein. J'ai 5-6 fournisseurs qui me disient, mais dis, l'année prochaine, on sera pas là. Non, mais on bosse pas.
Là, je suis d'accord avec Mehdi. 2023 va être catastrophique parce que
c'est terrible ce qui se passe. Les gens sont en garantie,
on va voir la réalité des
prix. Ah oui.
Et là, il y a plein d'entreprises qui vont chuter.
Mais là, ils ferment. Thomas, ils ferment. 31 décembre, ils vont fermer.
Donc, ça va affaiblir les fonds propres des banques. Exactement. Parce qu'après, il y a toujours un truc sur les banques. Ouais. Et là, le système bancaire, il se prend un choc quand même assez fort.
Il va se prendre une baffe.
Il va se prendre une baffe. Et donc, ça risque de faire des déséquilibres en chaîne.
Mais non, tu auras une prime de 50 euros pour ça.
Et puis, la BPI, elle garantissait un certain nombre de prêts garantis. Ouais. Mais si les dossiers étaient bien faits, il y a beaucoup de dossiers qui ont été faits à la va-vite. Et en fait, là, il dit, il y a un dépôt sur le dossier, la BPI veut pas rembourser.
Mais là, pour revenir à cette aide, attendez, Fabrice, moi, je voudrais savoir, est-ce que vous faites partie de ceux qui pourraient toucher l'aide, Fabrice, justement?
Non, honnêtement, je pense pas, parce que bon, j'ai de la chance d'avoir un travail, je suis quand même bien payé, je suis un peu, alors, je roule pas sur l'or, hein, mais si je fais 1800 euros par mois, voilà, je suis payé sur 14 mois, je ne me plains pas, j'arrive à subvenir à mes besoins.
1600 euros, vous touchez la prime, normalement.
A priori, vous serez concerné. Mais voyez, vous n'allez peut-être pas le faire parce que moi, je pense que le gouvernement parie en plus.
Ouais, sur les
gens. Il y a beaucoup de Français qui ne seront pas au courant qu'il y a un prime, qui ne seront pas concernés, qui oublieront d'envoyer parce qu'il faut envoyer quand même la demande. Il faut faire une lettre sur l'honneur. Il faut envoyer son revenu fiscal, enfin, son numéro fiscal. Moi, je pense que quand Madame Borne dit 10 millions, alors il y aura peut-être des gens qui vont tricher, mais est-ce qu'on va atteindre les 10 millions?
Il y a un tiers des gens qui ne touchent pas leur RSA déjà.
Là où Fabrice a raison, c'est qu'en réalité, on ne joue que par à-coup, en fait, par petites touches de un chèque, une prime, un truc, un machin, et qu'on aimerait tous qu'il y ait une politique à long terme, en fait, qui ait vraiment une perspective. Et c'est vrai que moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'aujourd'hui, ce sont juste des diffuseurs d'annonces, en fait. Elisabeth Borne a dit, regardez, je viens, je vous donne 100 euros. Là, elle viendra dans 15 jours, elle va dire autre chose. Elle va annoncer une autre petite mesure pour je ne sais qui, une autre catégorie de la population. On n'a pas de vision à long terme de choses qui nous permettraient de nous dire, bon, on va effectivement avoir des moments durs en 2023, mais il y a une perspective.
Fabrice, je vous pose la question vérité. Si jamais vous étiez éligible à cette prime, est-ce que vous la demanderiez?
Bien sûr, parce que je trouve que c'est une grande hypocrisie là-dessous, parce que le baril de Brent n'est pas si haut que ça. Je veux dire, il n'est pas en 2008 à 120 ou 130 dollars.
C'est vrai ce que vous dites. C'est à 88, je crois.
Mais le taux de change n'est pas le même, parce qu'on l'achète en dollars, et on achète avec l'euro en dollars,
mais il n'y a pas 30% de différence.
Allez-y, Fabrice.
C'est ramasser de l'argent sur les petits gens, les gens qui ont besoin de prendre leur carburant pour aller travailler. Moi, je fais 50 km par jour, 25 aller, 25 retour. Je suis conducteur de bus, je finis tard, je travaille tôt, j'ai des horaires décalés, je suis obligé de prendre ma voiture. Alors, si vous voulez, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Il y a des gens qui se lèvent tôt, il n'y a pas de transport. Il faut les premiers collègues, ceux qui arrivent à 4h du matin, ils ne prennent pas le bus à 3h30, il n'y a rien, ils sont obligés de prendre leur voiture. Il y a des gens qui habitent de l'autre côté du bassin d'Arcachon, qui prennent leur voiture, qui font 30, 40 km, 50 km pour venir travailler. Ils sont obligés. Alors, balancer une pièce de 100 euros, c'est super, mais ce n'est pas la bonne solution. Arrêtez de balancer des trucs comme ça et faites un travail en profondeur avec les pétroliers et avec quelque chose de vraiment optimisé sur le prix du carburant. Parce que c'est une grande hypocrisie de nous faire rouler en électrique et de dire, ah oui, non, mais l'électrique, c'est ce qu'il y a de mieux, alors que le prix du kilowattheure augmente, explose, parce qu'on n'est pas capable de gérer nos centrales en France. Qu'on exporte notre électricité, ce n'est pas normal. Ce pays marche un peu sur la tête, nous dirigeants.
Mais oui, mais parce que Fabrice, on ne planifie rien, je suis désolé. On préfère faire des chèques qui vont nous coûter, si on additionne, on est à 8 ou 9 milliards hein, pour la, le carburant. C'est 9 milliards, pardon, 9 milliards d'euros qu'on aurait pu utiliser sur une politique de transport, etc. C'est cette politique des chèques et je ne réagis qu'en cas de crise. On dit Macron, c'est l'homme des crises. Bah oui, mais parce que c'est des crises qui ne sont pas anticipées.
C'est pas l'homme de la planification.
C'est pas l'homme de la planification et surtout de la cohérence. C'est ça le problème.
On avait nommé quelqu'un à la planification. Important.
Ça s'appelle François Bayrou.
Allez-y,
quelqu'un des nouvelles.
Allez-y, Fabrice.
Les amis, moi je passais les nains, passais Sciences Po, j'ai passé Normal Sup, mais il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr-Cotidon pour comprendre qu'il y a des leviers à actionner pour optimiser le carburant, l'électricité et des choses prévoir à 5, 10 ans, 15 ans, pas maintenant.
Fabrice, moi non plus j'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait Mathsup, Mathsp, j'ai pas fait tout ça, mais par contre je sais une chose, c'est que sur la prime de 100 euros qui vont verser sur les comptes de certaines personnes, de 10 millions de personnes, il faut pas oublier qu'ils vont récupérer 60 euros. Donc en fait ils donnent réellement que 40 euros parce qu'il y a 60% de taxes sur le carburant. Donc j'ai pas besoin de faire bac plus 8 pour comprendre ce calcul rapide.
Merci Fabrice d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne journée. On regarde la question, le résultat de la question qu'on vous posait là. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a un État qui devient une espèce de tiroir caisse?
Oui.
C'est un on ouvre, on ferme le tiroir, on ouvre, on ferme le tiroir. C'est oui à plus de 81%.